Bonjour à tous, cette chronique auto est dédiée à une marque qui est presque un patrimoine national, Michelin. Michelin accompagne les voyageurs depuis plus de 120 ans, pas seulement avec des pneumatiques, mais aussi avec les guides, les cartes routières et même jusqu'en 1971, les panneaux indicateurs. Je vous propose de découvrir comment est née cette entreprise et comment elle a évolué sur le plan social. Tout commence en 1830 avec Édouard Debray, un industriel qui installe une sucrerie dans le Puy-de-Dôme. Elle fait faillite. 2 ans plus tard, il s'associe avec son cousin, Aristide Barbier, qui possède une fabrique de pompes et de machines agricoles. Elle est située place des Carmes à Clermont-Ferrand sur un site de 12 hectares. Une des filles de Barbier, Adèle, se marie avec un modeste fonctionnaire des douanes, Jules Michelin, en 1852. Ils ont 3 enfants, André, Marie et Édouard. À la mort des 2 cousins, Édouard Debray et Aristide Barbier, en 1864, le notaire reprend la gestion de l'entreprise. À la disparition du notaire, la société est au bord de la faillite. Les actionnaires décident d'appeler le fils de Jules Michelin, André, à la rescousse. Dans un premier temps, André pense pouvoir redresser l'entreprise. Il est ingénieur et possède une entreprise de construction à Paris. Mais il ne souhaite pas lâcher la sécurité de sa société et 3 ans après, il fait appel à son frère Édouard, artiste peintre, qui a été reçu premier au concours des Beaux-Arts à Paris. Ce dernier pense ne rester que quelques mois, mais finalement, il devient gérant unique en 1889. Les 2 frères s'entendaient très bien. Ils ont même épousé les 2 sœurs. À cette époque, la région est sinistrée par la crise du phylloxéra, une maladie qui détruit tout le vignoble clermontois. La population rurale n'a plus de travail. L'entreprise Michelin embauche. Un jour, Édouard a appris qu'était arrivé dans la cour un bicycliste et qu'il avait crevé un pneu. Il s'est intéressé, ils ont passé beaucoup de temps à réparer et puis il est monté sur le vélo et a trouvé cela extraordinaire. Il va alors s'intéresser à l'invention du pneumatique qui accompagne la naissance de l'automobile en cette fin de 19e siècle. Édouard va alors s'intéresser à la fabrication du caoutchouc et il vient se renseigner auprès de son personnel. Si le pneu a déjà été inventé par John Dunlop, en revanche, il va avoir l'idée du pneu démontable. Il prévoit alors de communiquer en participant à la course Paris-Clermont. Il devait y avoir des journalistes partout afin de démontrer la suprématie du pneu Michelin. Manque de chance, la maison Clément, dépositaire du pneu collé Dunlop, inscrit également 2 participants. Édouard va alors chez le quincaillier acheter des clous qui seront disposés sur un des tronçons de la course. En réponse, Dunlop porte plainte. Sans résultat, Michelin étant l'organisateur de la course et donc du règlement. Les succès vont participer à la promulgation du pneu. En 1891, en France, 10 000 cyclistes roulent avec des pneus Michelin.
Belle journée pour une balade en vélo. Oh là là, et il n'y a que 8 jours que j'ai gonflé. Ah, ce gonflage! Et hop, la route est belle. Tiens, lui aussi. Ah, quelle barbe ce gonflage, hein. Et la petite demoiselle? Oh, ce gonflage, mademoiselle. Aujourd'hui, cette corvée de gonflage, c'est fini. Et bien fini. Procurez-vous la chambre Airstop Michelin et vous roulerez des mois sans gonfler. Des mois sans gonfler avec la chambre Airstop Michelin. Airstop Michelin, des mois sans gonfler.
Airstop, Airstop, Airstop Michelin, la chambre à air qui tient l'air.
Puis, Édouard va avoir l'idée de monter des pneumatiques. D'abord sur son propre fiacre, puis il va équiper la société parisienne de fiacres. C'est pour l'entreprise une grosse commande. Il va ensuite passer à l'automobile. En 1894, il y a 200 voitures en France. Toutes roulent sans pneumatiques. En plus de l'inconfort, au-delà de 25 km/h, les vibrations font casser les pièces. Au début, les constructeurs sont réticents, vu le poids des voitures et l'état des routes. André impose donc à l'entreprise de construire sa propre automobile. Comme elle n'allait pas droit, elle fut surnommée l'éclair. Vu l'engin qui zigzaguait et crevait tout le temps, ce sont les frères Michelin eux-mêmes qui s'y collent. Ils partent sur les routes avec 2 ouvriers en vélo qui ouvrent la route devant. Ce sont les premiers à avoir développé une voiture sur pneus et ils déclarent avec assurance Dans 10 ans, toutes les voitures auront des pneus. En 1895, après une mise au point laborieuse, Leclerc est engagé dans la course Paris-Bordeaux. En 1897, il y a 1200 voitures en France et le record de vitesse est de 61 km/h. En 1898, Édouard a l'idée du bonhomme Michelin. Il visitait une foire exposition en voyant une pile de pneus. C'est là qu'il pense qu'on pourrait en faire un bonhomme et c'est la naissance de Bimadom. L'utilisation d'une mascotte et la répétition d'un slogan est une première dans le marketing bien avant les USA. Cette même année, l'usine va distribuer des actions aux principaux constructeurs automobiles. Édouard met en place la distribution au personnel de participation aux bénéfices, mais selon son bon vouloir. Début 1900, l'usine devient ingérable. Édouard met en place une charte en 27 articles pour l'embauche du personnel. Sur le plan social, les salariés bénéficient d'un service médical gratuit, d'une allocation pour les familles nombreuses et les personnes malades. En 1910, des coopératives sont créées où les ouvriers trouvent épicerie, boucherie et chauffage. En 1900, André a l'idée du guide Michelin. Il indique les restaurants et des informations utiles aux voyageurs. En 1910 également, il crée les cartes routières. À l'époque, il n'y avait pas de panneaux indicateurs. Il a donc fait tout le travail avec le numérotage des routes et les panneaux de signalisation. Il va aussi utiliser le sport comme moyen de communication avec la coupe Gordon-Bennett en 1905. Jusqu'en 1914, l'entreprise est extrêmement profitable. Elle a les coûts de revient les plus bas et elle impose ses prix. Ses bénéfices vont permettre un développement à l'international, en Italie en 1906 et aux États-Unis en 1907. La marque s'impose avec la même force que Coca-Cola. Bimadom apparaît sur des tablettes de chocolat, des stylos et différents objets de la vie courante. Marcel Michelin, le fils d'Edouard, va rencontrer Taylor aux USA. À la suite, Édouard décide de mettre en place le chronométrage afin d'optimiser le temps de travail. Jusque dans les années 20, aucune revendication sociale ou syndicale n'est tolérée. Pour Édouard, les représentants du personnel, ce sont les cadres. André s'intéresse à l'aviation. Il va créer le prix Michelin du Puy-de-Dôme pour encourager son essor. Les progrès sont rapides. Des 2,5 km de vol du début jusqu'au survol le 7 mars 1911 de la ville de Clermont. Les cloches de la cathédrale sonnent à toute volée, les sirènes de l'usine retentissent. L'événement fait la une. André a un cercle de connaissances très large. Il lui arrive d'aller défendre sa cause à la Chambre des députés. On lui propose même d'être président de la République. Il répondra qu'il a autre chose à faire que de perdre son temps. En janvier 1914, André pose le principe de la supériorité aérienne qui permettrait la victoire des armées sur Terre. À l'entrée en guerre, l'armée dispose de 120 avions de 14 marques différentes. Michelin va se mettre à produire des avions à prix coûtant et devenir ainsi le plus gros fabricant d'avions du monde. C'est l'entreprise Michelin également qui va inventer le système de largage de bombes et en 1996, il va construire la première piste cimentée pour les avions. L'usine va fournir 1844 exemplaires, ainsi que des bombes et des lance-bombes. Elle crée un hôpital militaire à Clermont dans un local de stockage de pneus. Des membres du personnel participent aux soins, 3000 patients sont soignés et rééduqués. À la libération, André sort le guide Michelin des champs de bataille. Il va envoyer son fils avec un médecin 8 mois aux USA pour étudier les crèches, les sanatoriums et les écoles qu'il créera par la suite. Un gros effort est fait pour fidéliser le personnel. En 1916, création des congés payés, de la retraite bien avant leur apparition officielle en France. En 1920, l'entreprise s'étend sur 40 hectares. De nombreux progrès techniques font leur apparition. Les cités Michelin sont créées. C'est un progrès considérable à l'heure où la plupart des logements sont insalubres sur Clermont-Ferrand. Les premiers occupants sont des agriculteurs devenus ouvriers chez Michelin. Et le fait de posséder un jardin est important pour eux. Du coup, les baignoires sont parfois utilisées pour stocker les pommes de terre. Informés, Édouard réagit. Ils sont chez eux, qu'on leur foute la paix. Les loyers sont dérisoires et la présence de douches est un luxe pour l'époque. Les agriculteurs sont très appréciés dans l'entreprise car ils travaillent beaucoup à l'usine et chez eux. Les rues des cités portent des noms, des références morales et des vertus chrétiennes. rue de la charité, de la foi, de l'espérance, du courage, de la fidélité. Ainsi, d'une certaine manière, l'éducation des ouvriers se poursuivait hors des murs de l'usine. Ayant compris que la vie privée avait une incidence sur le travail, il encourageait les enfants, beaucoup moins le divorce. Les enfants naissaient Michelin, baignés dans l'odeur de caoutchouc que ramenaient les parents à la maison. Les écoles Michelin préparaient les futurs employés dans un cadre très strict, imprégné de catholicisme. À côté de cela, Michelin savait accompagner ses employés, les femmes veuves notamment. C'était une forme de paternalisme qui ne plaisait pas à tout le monde. Il a également créé des équipements sportifs et de loisirs, piscine, tennis, salle de gym, salle des fêtes. Marcel Lefils va créer l'association sportive Michelin, l'ASM. La crise boursière de 1929 oblige Michelin à fermer ses usines aux États-Unis. Cette même année, André invente la Michelin, un autorail monté sur roues avec une structure légère inspirée de l'aéronautique. Pour en faire la promotion, en 1931, André pilote lui-même la machine sur le trajet Paris-Deauville à 110 km/h de moyenne. Tout au long de leur carrière, Édouard et André auront fait preuve d'une collaboration intense, ils s'écrivent même tous les jours. À l'aube de sa mort, Édouard écrit « Si j'avais 40 ans, je lâcherais les pneus et je deviendrais entrepreneur de transport aérien ». Le 4 avril 1931, André disparaît en pleine crise économique. Son décès est largement couvert par la presse et le monde de l'aviation. Édouard accélère la formation de son fils Étienne, qu'il a nommé co-gérant de l'entreprise en 1938. Ironie du sort, il va se tuer en participant au prix Michelin, son avion emporté par une bourrasque. En réaction à cette tragédie, Édouard arrête toute activité aéronautique et nomme son second fils Pierre co-gérant. Ce dernier prendra également la direction de Citroën en 1935 suite à son rachat par Michelin. En 1931, la crise sévit toujours et Michelin doit se séparer d'une grande partie de son personnel. De plus, l'Allemagne et les États-Unis sont maintenant capables de développer des produits concurrents. Michelin va alors adopter une démarche plus scientifique. L'entreprise redémarre et de nouvelles usines sont construites. En 1936, des mouvements sociaux touchent l'usine, c'est la naissance du Front populaire. En 1937, Pierre, le second fils d'Édouard, décède à son tour au volant d'une voiture d'essai. Édouard va demander à son gendre, Robert Puiseux, de reprendre la direction du groupe en compagnie de Pierre Boulanger. Édouard fonde alors ses espoirs sur son petit-fils, François Michelin. À l'âge de 11 ans, il est désigné comme l'héritier futur. La fin des années 30 est une période d'innovation avec notamment le pneu métallique et le pneu pilote. C'est la première fois que l'on arrive à associer l'acier et le caoutchouc. En 1939, à la veille de la guerre, l'entreprise intensifie la fabrication de pneus poids lourds et de masques à gaz. Malgré la fatigue liée à son âge, dans un dernier élan patriotique, Édouard va présenter plusieurs prototypes d'avions de chasse. En 1940, c'est l'occupation et l'usine de Clermont tombe sous le régime de Vichy. C'est la pénurie en matières premières, Édouard tente en vain de négocier avec les Allemands. Le 25 août 1940, il disparaît à l'âge de 81 ans. En cette période de guerre, son décès passe inaperçu, il est enterré à côté de ses deux fils, Étienne et Pierre, et de son frère André. Son gendre, Robert Puiseux, reprend les rênes de l'entreprise. Comme Édouard, c'est un homme discret. Il dit « À deux, on travaille, à trois, on bavarde, à six, on fait de la politique. » En 40, l'usine est occupée et il faut faire des pneus pour les vainqueurs. Mais en 1941, la résistance s'installe dans l'usine. Le régime de Vichy bloque les salaires. Puiseux et Boulanger décident de donner des pneus aux ouvriers pour alimenter le marché noir. Marcel, sous couvert de l'association sportive, crée un refuge et met en place des groupes pour leur permettre de rejoindre la France libre. En 1943, Marcel Michelin est dénoncé et déporté avec son fils Jacques. En 1944, ce sont 5 membres de la famille Michelin qui sont déportés. Marcel sera exécuté. Les cartes Michelin sont des alliés pour l'armée puis pour la résistance. Elles serviront même aux Américains pour la préparation du débarquement avec la bénédiction de l'usine. Hélas, de leur côté, les Allemands utiliseront aussi ces cartes pour préparer l'invasion de l'Angleterre. À la fin de la guerre, le général de Gaulle et l'armée américaine vont féliciter Michelin. Il faut dire que c'est l'une des rares entreprises françaises à avoir eu une attitude exemplaire durant la guerre. En 1946, Michelin invente le pneu à carcasse radiale et ainsi prend une avance considérable sur ses concurrents. C'est un certain Marius Mignol, simple technicien, qui en est à l'origine. La bande de roulement est stabilisée par une carcasse métallique, c'est le pneu X.
Aujourd'hui, nous allons parler du pneu Michelin ZX. Un pneu qui répond par tous les temps. Kilomètre après kilomètre, le Michelin ZX vous est fidèle parce qu'il est construit pour durer longtemps. C'est pourquoi il peut porter ma signature. Michelin ZX Radial, tout temps, un pneu sûr et qui dure longtemps.
Cette innovation va permettre à Michelin de reconquérir le marché américain. Des années 50 aux années 60, le climat social est tendu, avec des grèves pour l'augmentation des salaires. L'un des deux co-gérants, Pierre Boulanger, se tue au volant d'une voiture d'essai. Robert Puiseux reste seul au règne de l'entreprise. En 1955, François Michelin a 28 ans. Il est nommé co-gérant. Un an après, il prendra totalement les rênes de l'entreprise. Il va développer l'international à marche forcée. Discipline, économie, travail bien fait sont ses leitmotivs. En mai 68, l'usine est aux mains des ouvriers. Ceux qui veulent continuer l'activité se font cisailler leurs vêtements à coups de rasoir à l'entrée dans les locaux. Le syndicalisme se renforce énormément, conduisant à des grèves à répétition pour des motifs parfois futiles. En 1973, c'est le premier choc pétrolier. L'une des forces de François Michelin, c'est de comprendre que le monde change. Sur toute la planète, l'économie est ralentie. Il va développer le marché aux États-Unis, un marché de 200 millions de pneumatiques. Pour ce faire, il va s'appuyer sur Ford, qui souhaite équiper ses voitures de pneus radio Michelin en première montre, et sur le distributeur Sears. La progression de la marque est impressionnante. De 10e mondial dans les années 60, à premier en 80, Michelin va s'investir également en Formule 1, par le biais de Renault puis de Ferrari, et devenir champion du monde en 79. Cet engagement va permettre à la marque de gagner des parts de marché. La technologie du pneu radial va gagner le secteur de l'aéronautique et du génie civil. En 1982 a lieu un premier plan social. Le groupe n'a pas vu venir la crise et pour la première fois il enregistre des pertes. À Clermont-Ferrand, les effectifs vont passer de 30 000 à 15 000 personnes en 15 ans. Les licenciements sont souvent effectués de manière injuste et aléatoire, ce qui va créer une défiance du personnel envers l'entreprise. C'en est fini de l'assurance d'un travail à vie chez Michelin. L'entreprise va alors se lancer dans une politique de réduction des coûts et de rachat de concurrents. Édouard, le fils de François Michelin, intègre l'entreprise à l'âge de 22 ans. Diplômé de l'école centrale et formé par Carlos Ghosn aux USA, il va, comme son père, suivre un parcours initiatique de 2 ans dans les usines et les réseaux de distribution Michelin sous une fausse identité. En 1988, un conflit frappe l'entreprise pour des revendications salariales suite à une proposition d'augmentation de 20 centimes de l'heure qui ne passe pas. Le conflit se médiatise, François Michelin ne cède pas, mais revalorise de nombreux salaires. En 1991, l'entreprise annonce 16 000 suppressions d'emplois et dans le même temps installe des usines en Thaïlande et au Japon. Elle rachète également une Air Royal. Entre 1993 et 1996, une restructuration va à nouveau générer 10 000 suppressions d'emplois. En 1995, Michelin fournit les pneus de la navette spatiale américaine. En 1996, ouverture d'une usine en Chine. Michelin équipe dorénavant Boeing et Airbus. Cette évolution liée à la mondialisation et à l'arrivée d'actionnaires dans le groupe va définitivement ruiner le climat social de l'entreprise, qui pourtant, à son époque, fut un modèle. Édouard Michelin devient le patron du groupe en 1999. Il va annoncer des bénéfices records en hausse de 20% et la suppression de 7500 postes en Europe. Le monde a changé, l'entreprise aussi, pour le meilleur et pour le pire. Ainsi se termine cette saga Michelin. Bonne journée à tous sur Radio Pro.